Tout d'abord, merci à notre grande et belle famille Josué de nous avoir donné le privilège de suivre ces 3 journées de cours. Et pour nous, c'est comme si chaque fois le Seigneur enlevait une couche d'abord pour remettre quelque chose de neuf. Moi, j'ai choisi le premier sujet, c'est de vous parler sur la croix. La croix dans la guérison des malades. Et déjà pour moi, personnellement, la croix, c'est tellement fort que presque chaque fois que je remplis un papier où il y a marqué date de naissance et lieu de naissance, j'ai envie de mettre 1963 à la croix. C'est là où tout a commencé. Alors, guérir les malades, c'est une vision qui vient directement du cœur de Dieu. Et le fondement, nous le trouvons donc dans Ésaïe chapitre 53, qui nous parle de la croix de Christ. Toutes promesses ont leur origine dans la croix. Donc l'origine de la guérison vient directement de la croix. Alors nous avons un rapport des évangiles qui nous décrivent la croix sous une perspective humaine, les faits physiques qui se sont passés. Mais dans Ésaïe, nous trouvons cette perspective spirituelle. Et je vais vous lire le verset 4 et le verset 5. Certainement, ou cependant, ou vraiment, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, on nous a appris que le mot hébreu pour souffrance, kolis, signifie maladie ou pathologie physique, mentale et émotionnelle. Le mot porter, les souffrances qu'il a portées et les douleurs qu'il s'est chargé veut dire éloigner, emporter au loin, partir. Et le mot paix, le châtiment qui nous donne la paix, veut dire shalom, vous le savez, mais veut dire pas seulement paix, mais comment va ta paix ? Non seulement la paix intérieure, mais également comment va ta santé ? Jésus a porté nos maladies et nos péchés de la même façon. Il les a traités de la même manière. Maladies et péchés, il les a traités exactement de la même manière, c'est-à-dire 100% pour notre salut et 100% pour notre guérison, sans aucune différence. Le « tout est accompli » visait les deux axes, le péché et la maladie. Si donc nous disons que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de nous guérir, nous disons aussi que ce ne serait pas toujours la volonté de Dieu de nous sauver. Et ça, c'est faux. Dieu veut nous sauver et nous guérir à cause de la croix. Dans 1 Pierre 2, 24, il est dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Donc, nous avons été guéris il y a 2000 ans et nous avons été sauvés il y a 2000 ans à la croix. Et l'effet de la croix devient concret. Le jour où je l'accepte, le jour où je l'accepte, je suis bénéficiaire de ses effets. Jésus a eu sa première expérience de la maladie sur la croix, mais pas de manière physique, c'est-à-dire il n'a pas souffert d'une infection ou d'un cancer ou d'une inflammation. Et avant le péché, il n'y avait pas, la maladie n'existait pas. La maladie est quelque chose de bidimensionnel. Elle a son origine spirituelle et sa manifestation physique. Et le fondement spirituel donnant droit à la maladie a été vaincu définitivement à la croix. Elle a perdu son droit à la croix une fois pour toutes. Bonne nouvelle. Ne tolérons pas la maladie plus que le péché. Les deux ont été cloués à la croix. L'amour est la raison de la croix, la seule raison. Dieu m'aime comme il aime Jésus sans que je fasse rien. Grandiose. C'est son choix, c'est lui qui a fait ce choix de m'aimer comme je suis. Il m'aimait bien avant que je l'aime. Et ça, ça ne changera jamais. Jamais, vous vous rendez compte? Jamais. Dans Jean 3, 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé, guéri et délivré. Et si vous le voulez bien, suite aux paroles de Guillaume, je voudrais partager juste une expérience personnelle qui a découlé de la reprise de ces notes qu'on a étudiées. Et je l'ai fait avec mon chéri, on l'a fait ensemble. Et vous savez, je mentionne l'écharde, c'est une question qui a été posée pendant les cours, je mentionne l'écharde de Paul qui était là pour le souffleter, pour empêcher qu'il ait de l'orgueil. Et je peux vous dire, à cette écharde, on y tenait vraiment. On y tenait à cette écharde parce que c'était... Et voilà qu'on apprend qu'en fait, c'est une mauvaise traduction. C'est mal traduit. Et quand on recherche dans la Bible, on voit en effet, écharde, épine, aiguillon, désigne des païens, des méchants. On peut le lire dans Nombre 33, dans 2 Samuel 23. Et donc, on a compris que pour Paul, Satan envoie un obstacle pour empêcher les gens qui l'écoutent pour empêcher de recevoir la révélation que Dieu avait à donner de la part de Dieu. C'était l'adversité des gens qui l'empêchaient. Et donc, ils empêchaient que Paul soit reconnu comme messager de Dieu. Et puis, je vous dis honnêtement, pour nous, c'était un gros morceau. Et on a prié. Et tous les deux, on a eu l'image de la couronne d'épines de Jésus. Les épines, cette couronne qu'on lui a posée sur la tête avant d'être crucifié. Et ça voulait bien dire, tu ne peux pas être le roi des Juifs. Tu ne peux pas être le Fils de Dieu. Et par moquerie, on lui a enfoncé cette couronne pour éviter qu'on le reconnaisse comme Fils de Dieu.
Waouh, c'est super. C'est super d'enseigner et c'est super d'avoir un retour de ce qu'on enseigne et des pépites qui sont redonnées. Waouh, merci Marguerite. Caro, on l'encourage aussi. Donc c'est une première pour beaucoup de redonner ou d'enseigner ou en tout cas de bénir et de partager du pain avec la famille.
C'est difficile de passer après Madeleine. Alors, dans la parole, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et en fait, moi j'avais à vous partager que Dieu veut toujours guérir. Et ça nous a été donné à partir de beaucoup de versets de la parole. Alors je ne vais pas tous les citer parce que je n'aurai pas le temps. Je vais en prendre un où c'est clairement explicité dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Alors dans l'Ancien, c'est dans le psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Et dans Matthieu 15, verset 36, il le suppliait afin de toucher seulement la frange de son vêtement et tous ceux qui le touchaient furent pleinement délivrés. C'est marqué tous, c'est pas marqué certains. C'était pas donné à certains seulement. Mais là où je voudrais m'attarder plus spécifiquement, c'est toujours avec des versets qui parlent de la guérison, mais nous, dans nos traductions à nous, ben, c'est pas dit explicitement. Tout à l'heure, Madeleine parlait du shalom, qui est traduit dans nos Bibles par la paix, mais effectivement, dans cette notion de shalom, il y a également la guérison. Et donc, ce shalom, on le trouve dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament était écrit en hébreu. Et donc les paroles que je vais vous donner, elles se trouvent dans l'Ancien Testament. Par exemple, il est dit « L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux, en paix, et on va rajouter maintenant en santé. » C'est dans le psaume 29, verset 11, parce qu'on va traduire le shalom par la paix et la santé, comme c'est effectivement, c'est la définition qui est dans le... Enfin, c'est le sens littéral qu'a le terme shalom. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix et ta santé. C'est dans Proverbes 3, verset 2. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, et donc on rajoutait de santé, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Celui-là, tout le monde le connaît, Jérémie 29, 11. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, je leur ouvrirai une source abondante de paix, de santé et de fidélité. C'est aussi dans Jérémie, chapitre 33, verset 6. Et dans Ézéchiel, je traiterai avec eux une alliance de paix et de santé. Chapitre 37, verset 26. Alors le Nouveau Testament, je pense que vous savez que ce n'est pas en hébreu qu'il a été écrit, c'était en grec. Et dans le Nouveau Testament, on trouve un autre terme, trouve le terme grec « sozo », dont le sens est « sauvé », enfin qu'on a traduit « sauvé » dans nos Bibles. Mais ce mot, il renferme aussi l'idée de guérison, de transformation et de délivrance. Alors, là aussi, je vais vous citer quelques versets. « Il nous a suscité un puissant sauveur et guérisseur dans la maison de David, son serviteur. » C'est dans Luc, chapitre 1, verset 69. Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver et guérir ceux qui étaient perdus. Dans Luc 19, verset 10. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et guéri. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Dans Jean 10, verset 9. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera non seulement sauvé, mais guéri. Romains 10, verset 13. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés et guéris, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Et des versets comme ça, il y en a encore beaucoup, mais je vais m'arrêter là. Et en fait, Jésus est venu faire la volonté du Père, et l'une des plus grandes parties de son ministère a consisté à guérir les malades et libérer les captifs. Il est donc évident que la guérison, c'est la volonté de Dieu. Dans la Bible, on ne trouve aucun exemple où des malades étant venus à Jésus n'aient pas été guéris. On ne trouve pas, comme on a pu peut-être l'entendre dire, « Il faut que tu restes malade, j'ai un plan pour ta maladie ». Jésus n'a jamais dit ça à personne, ou « Je vais te donner la force de l'endurer » ou « C'est ta croix, il faut la porter ». Non, il a tout accompli. On n'a plus rien à faire, on a juste à se laisser porter. On voit tout au long des évangiles que les malades qui venaient à Jésus-Christ étaient tous guéris. Donc si en guérissant les malades, Jésus a fait la volonté de son Père, c'est que Dieu nous veut en bonne santé. Et je vous cite encore un verset. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » C'est dans Marc 16, versets 17 et 18. C'est pour vous dire que ce n'est pas uniquement pour les apôtres, pour ceux qui vivaient au temps de Jésus, mais ça reste valable pour nous. À nous aussi de suivre l'exemple et le modèle de Jésus, d'imposer les mains aux malades et de les affranchir, de les guérir. Alors Jésus, il a déjà payé le prix il y a 2000 ans pour tous les malades et toutes les maladies, mais comme le disait Marguerite, il y a un choix à faire. Et ce choix, c'est celui de nous saisir de la guérison que Jésus nous a acquise à la croix. Et j'ai beaucoup aimé je crois que c'était Nadine qui nous l'avait partagé. La foi, en fait, c'est notre main qui se tend et qui saisit la guérison, la promesse qu'il nous tend. La foi s'approprie l'objet de la promesse qui est tendue par Dieu. Elle la saisit pour la transporter de la dimension spirituelle à la dimension physique. Alors ça, c'était la première partie. Mais pour pouvoir nous approprier tout ça, ben, il y a un début et puis il faut d'abord renoncer au mensonge. Et ce jour-là, lors de la première séance, on nous a conduit à renoncer au mensonge. Et là aussi, je vais vous citer quelques-uns des mensonges qu'on gobe très facilement. Donc, elles nous ont conduit à renoncer au mensonge que Dieu ne veut pas toujours guérir, au mensonge que la maladie, ou ma maladie, ma propre maladie ou celle de mon proche est plus forte que Dieu et qu'il ne peut rien faire, que Dieu ne peut pas me guérir, que Dieu ne veut pas me guérir, parce que quelquefois on pense qu'il peut, mais qu'il ne veut pas, ou aussi que la maladie vient de Dieu, que Dieu envoie la maladie pour nous enseigner quelque chose, ou pour nous punir, ou pour notre bien, qu'il y a des maladies qui sont inguérissables, qu'on ne mérite pas d'être guéri, parce qu'on n'a pas assez de foi, parce qu'on n'est pas assez spirituel, parce qu'on n'est pas assez parfait, ou que Dieu peut être en colère après nous et nous retirer sa bénédiction. Donc on a été conduit à renoncer à tous ces mensonges et ensuite à les clouer à la croix ce jour-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées.
Les conduire à renoncer. Ok.
Eh bien, on va faire ce qu'on a fait cette fois-là. Donc, je vous invite à répéter après moi. Je renonce au mensonge que Dieu ne veut pas toujours guérir. Je renonce au mensonge que ma maladie ou la maladie de mon proche est plus forte que Dieu et qu'il ne peut rien faire. Je renonce au mensonge que Dieu ne peut pas guérir ma maladie. Je renonce au mensonge que Dieu ne peut pas me guérir et que Dieu ne veut pas me guérir. Je renonce au mensonge que la maladie vient de Dieu. Je renonce au mensonge que Dieu envoie la maladie pour m'enseigner quelque chose. Ou pour me punir. Ou pour mon bien. Je renonce au mensonge qu'il y a quelques maladies qui sont inguérissables. Je renonce au mensonge que je ne mérite pas d'être guérie. Parce que je n'ai pas assez de foi, parce que je ne suis pas assez spirituelle, ou parce que je ne suis pas assez parfaite. Je renonce au mensonge que Dieu peut être en colère après moi et retirer sa bénédiction. Et donc, pour conclure, je renonce à tous ces mensonges et je les cloue à la croix. Et aussi un petit témoignage pour terminer. Il y a des années, je souffrais énormément le premier jour quand j'avais mes règles, à tel point qu'une fois, j'étais rentrée chez moi à midi et j'étais pliée en deux et j'ai dû appeler la directrice de l'école et au son de ma voix, elle m'a dit « Reste chez toi, c'est pas la peine de revenir ». Et j'en avais parlé à une amie, que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'elle faisait partie de l'église il y a quelques années. Elle s'appelle Denise, c'est la maman de Claire et Laïc. Et Denise avait prié pour moi. Et à partir du moment où Denise a prié pour moi, je n'ai plus jamais eu mal. Pendant des années. Mais c'était basé non sur ma foi à moi, c'était basé sur sa foi à elle. Et il y a eu, il y a quelques temps, le groupe de femmes qui s'est réuni et c'est Luc qui était invité à parler. C'était le jour de Yom Kippour. Et Il a pris le rôle du souverain sacrificateur et il a demandé pardon pour beaucoup de choses. Et ce jour-là, il y avait un cri en moi qui voulait sortir, que je n'ai pas réussi à faire sortir, malgré l'aide des personnes qui étaient là, des femmes qui étaient là pour... voilà, il y avait Marie-Christine, il y avait Jocelyne, il y avait Huguette, mais ce cri, il n'a pas voulu sortir. L'après-midi, je suis rentrée chez moi, et ce jour-là, j'avais mes règles, j'avais pas mal. Quand je les ai eues, je m'en suis même... je ne faillais pas m'en rendre compte, comme bien souvent. Et dans l'après-midi, j'ai eu très mal. Les douleurs que je connaissais il y a des années, elles sont revenues. Et je ne savais pas quoi faire. Et j'ai appelé Suzanne, parce que je n'avais pas les coordonnées d'Huguette. Et je voulais que Suzanne appelle Huguette pour que Huguette puisse prier pour moi, parce que je pensais que c'était lié à ce qu'on avait vécu le matin. Et entre-temps, j'ai reçu un coup de fil, mais j'étais pliée en deux, j'étais en train d'aller vomir. Je croyais que c'était Suzanne qui me rappelait, en fait, c'était Denise. Et quand j'ai pu enfin prendre le téléphone, que j'ai reconnu que ce n'était pas la voix de Suzanne, bah Denise m'a accompagnée pendant tout le temps. Et à un moment donné, elle m'a dit, bah, si tu veux, je vais appeler Luc, puisque c'est lui qui était là ce matin. Et en fait, elle a essayé de joindre Luc. Elle n'a pas réussi, ça sonnait occupé. Ensuite, quand les douleurs ont cessé, j'ai voulu appeler Suzanne. Et en fait, j'ai appris qu'elle n'avait pas du tout contacté Huguette parce qu'elle pensait que c'était la préménopause. Donc, elle n'avait pas du tout compris ce que je lui avais dit. Mais toujours est-il que tout le temps où j'étais avec Denise au téléphone, au début, elle voulait aussi que j'aille consulter un médecin, mais je lui ai dit, mais ça ne relève pas d'un médecin, je sais qu'il y a quelque chose de spirituel en dessous. Mais j'ai proclamé la guérison. Et cette fois-ci, je ne me suis pas basée sur la foi de quelqu'un d'autre. Et c'est tout simplement miraculeux que Luc n'ait pas pu répondre, que Suzanne n'ait rien compris au film, parce que ça m'a permis, moi, d'exercer ma foi. Et depuis, je les ai eus de nouveau et je n'ai pas eu mal.
Waouh, ça nous dépasse. Hein. Waouh, Caro. On découvre des dons en même temps, vous voyez, c'est bien les écoles parce qu'on apprend et puis quand on a l'occasion de donner, on se rend compte des trésors que chacun est jusqu'à ce qu'il ose donner, se lever, commencer. C'est juste oser, prendre le risque de. Donc c'est super, vraiment. On continue, c'est pas fini, avec Christian. On l'encourage aussi.
Alors moi, je vais vous parler du thème que Dieu nous guérit par amour, et c'est son amour qui nous pousse à prier pour les malades. Donc je vous parle de l'amour. Alors je vais aussi citer plusieurs versets qu'on nous a partagés pendant ces enseignements, mais pas besoin de les afficher ou de les rechercher dans votre Bible, et laissez-vous simplement imprégner. Voilà. Donc je vais parler d'abord de l'amour de Dieu, de Dieu le Père. Donc dans 1 Jean 4, 8, il est écrit que Dieu est amour. Donc c'est sa nature, c'est son essence, c'est sa carte d'identité, si on veut. J'imagine, si Dieu avait une carte d'identité, elle serait en forme de cœur et il y aurait marqué « amour » partout. Voilà. Après, dans Exode 34, 6, « L'Éternel est un Dieu plein de compassion et de grâce. » Donc compassion, grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Donc j'ai mis en gras les mots là, compassion, grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Donc il nous pardonne, il a compassion face à nos souffrances et puis il ne manque pas d'agir, il ne nous oublie jamais. Donc c'est vraiment pour montrer qu'un Dieu qui nous aime à ce point-là ne peut pas nous laisser malades. 1 Chronique 16, 34. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. Donc on est aimé pour toujours, pas pour une journée ou pour un petit moment, mais pour toujours et en toute situation. Psaume 119, 68. Que tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes volontés. Bienfaisant. Bienfaisant. Donc tu nous veux du bien. Dieu nous veut du bien. Dieu veut que nous guérissions, que nous soyons en bonne santé. Psaume 145, 9. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. Tendresse. Plein de tendresse. Plein d'affection, il est attentif à nos besoins, ce qui nous arrive ne lui est pas indifférent. Psaume 86, 5. Oui, tu es bon, Seigneur, et prompt à pardonner, riche en amour pour tous ceux qui t'invoquent. Donc, quand on lui parle, il nous écoute, il nous répond. Voilà. Donc un Dieu qui pardonne toujours. Matthieu 7, 11. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Donc, voilà, un père, un papa, qui veut nous faire du bien, qui veut nous guérir. Et après, donc je vais parler aussi de l'amour de Jésus. Donc là, c'était l'amour de Dieu le Père. Maintenant, c'est l'amour de Dieu le Fils, qui est un exemple pour nous et qui, pour nous pousser à prier aussi pour les malades. On peut regarder, donc se fixer sur l'exemple de Jésus. Donc il y a dans Actes 10, 38. Ensuite, Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Donc là, on voit bien la connexion entre Dieu le Père, qui utilise le Saint-Esprit pour toucher Jésus, pour le remplir, pour lui donner sa puissance. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous la puissance du diable. Donc Jésus, qui est motivé de l'amour, a reçu une puissance pour vaincre la maladie qui vient du diable. C'est bien clairement dit là. Tous ceux qui étaient tombés sous la puissance du diable. Donc la maladie ne vient pas de Dieu, la maladie vient du diable. Matthieu 20, 34. Pris de pitié pour eux, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Donc ces deux aveugles qui ont crié à Dieu, et Jésus a été saisi de compassion pour ces personnes. Et il les a touchés parce que son moteur, c'est l'amour. C'est ça qui l'a fait réagir, qui l'a fait agir, qui l'a fait les prier pour eux. Après Matthieu 14, 14, aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de pitié pour elle et guérit les malades. Donc pareil, pitié, compassion. Donc voilà, Matthieu 1, 40 à 41, un lépreux s'approcha de lui, il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus prit de pitié pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit, oui, je le veux, sois pur. Donc je le veux, hein, c'est pas... Il n'hésite pas, quoi. Il veut que nous soyons en bonne santé, il veut nous guérir. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut pur. Donc Jésus est à l'écoute, il est volontaire, hein, il veut nous agir en faveur des malades. Donc tout ça pour dire que Jésus n'agit pas mécaniquement, il est ému dans son être intérieur et c'est ça qui le pousse à agir. C'est pas juste, bon, maintenant je te guéris, hop, 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 il y a des malades là, hop. Non, il considère chaque personne personnellement et il agit. C'est pour nous un exemple d'attitude de cœur à avoir et une façon de fonctionner. Voilà.
On est vachement fiers d'eux, hein. C'est vraiment... Jeanne, si tu veux venir et compléter. Voilà, il y a certains qui font à deux les petits enseignements, d'autres seuls, c'était selon leur volonté. On les a laissés choisir et c'est eux qui ont choisi.
Alors, ce qui m'a touchée par rapport à cet enseignement, cette troisième partie, c'est que je n'ai pas à porter le fardeau de ce que les gens ne sont pas guéris, de ce qui n'arrive pas à mes propres yeux. Je le dépose à la croix. Nous avons juste à aimer les personnes et déverser l'amour de Dieu et utiliser cela pour demander à Dieu « Je veux plus de toi ». J'ai besoin d'être déterminée, je marche dans la foi et l'attente en me disant qu'aujourd'hui, c'est le jour du miracle. Et je déverse l'amour du Père avec les personnes avec qui je prie. La guérison, c'est sa responsabilité et mon fardeau à moi, c'est d'aimer. Il veut toujours agir au travers de moi bien plus que ce que je crois.
Amen.
Alors, j'enfile la cuirasse du guerrier, une cuirasse d'amour, avec un cœur de fils et de fille, et j'ose. Voilà.
Merci, Jeanneux. Benjamin.
Moi, je n'ai pas de notes. C'est parce que j'ai très bien écouté pendant tout le long. Et peut-être aussi un petit peu parce que j'ai manqué de temps, mais c'est pas grave. J'ai tout en tête. Non, voilà. Donc, en gros, moi, je vais vous parler plus du côté de la bataille, en fait, contre la maladie. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, des fois... Ça arrive que quand on prie une fois, ben la maladie part pas tout de suite en fait. Et donc, pour cela en fait, pour mieux expliquer ce qu'on a vu pendant le truc, je vais reprendre l'image de Nadine en fait. C'est l'image en fait de la maladie comme un chien, ou plutôt une sale bête, parce qu'un chien c'est trop positif comme image. Non, plutôt une sale bête qui veut squatter votre corps. Et ouais, donc vous êtes comme une maison en fait, et t'as la sale bête qui essaie d'entrer. Donc ce qui arrive très souvent, c'est que tu as la maladie qui arrive comme ça, elle commence à squatter votre jardin, et là, vous êtes là, va-t'en, s'il te plaît. Et tu as la maladie qui va vous regarder, non. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens, ils se disent, ah, elle part pas tout de suite, bon bah tant pis. Et laisse la maladie dans le jardin, la maladie elle est en train de se dire à ce moment-là, ah mais cool, mais en fait, ce gars ne veut pas vraiment me faire partir. J'ai dit non, il est vraiment parti alors qu'il a pu me chasser. Pas grave, je vais rester alors. Et petit à petit, la maladie, elle s'installe. Elle va squatter ensuite votre salon, votre couloir. Et souvent, on est là à faire... Elle est encore là, celle-là. Et la maladie, elle va vous regarder pendant un instant, voir si vous réagissez. Puis voyant que vous ne réagissez pas, ensuite, elle va continuer à squatter. Jusqu'à aller dans votre chambre, jusqu'à vous squatter totalement, en fait. Et c'est pour ça, souvent, en fait, quand on va se mettre à prier... on va être là, non mais maladie maintenant je veux que tu partes au nom de Jésus et tout, là ça va devenir en fait comme un bras de fer. Souvent vous avez prié et tout, mais maladie va-t'en, voilà, la maladie elle va genre être là, elle va être effrayée, elle va commencer à partir, elle va partir seulement de la chambre, elle va rester dans le couloir du genre, écoute tu m'as laissé entrer, j'ai encore le droit d'être ici. Et alors là il faut répéter, non, t'as aucun droit d'être ici, au nom de Jésus va-t'en. Et c'est ça en fait, la seule stratégie de l'ennemi en fait, maintenant que Jésus est mort à la croix, c'est de vous intimider, de vous rendre incrédule en fait. S'il arrive à vous décourager dès les premières prières, alors à ce moment-là, il a gagné en fait. C'est du genre, ah bah ça y est, je l'ai découragé, maintenant il va me laisser tranquille, je vais pouvoir squatter tranquille. Et alors que si vous continuez à persévérer jusqu'à que la maladie parte, bah elle ne pourra que partir parce que avec le sang de Jésus, légalement, elle a aucun droit chez vous en fait. Voilà. C'est ça. Au niveau de la bataille, je voulais encore parler d'un point, c'est au niveau des échecs en fait, parce que des fois on prie, il se passe rien, on prie pour une personne, on prie encore et encore, il se passe rien. Je veux dire, ce qu'on a appris, c'est qu'on n'a souvent pas la même notion d'échec que Dieu en fait, je m'explique. C'est-à-dire en fait, on prie une fois, ouais Seigneur, j'aimerais que tu guérisses cette personne et tout. Et ouais, vraiment, tu parles à la personne, tu lui dis, mais écoute, j'ai vraiment encore de te guérir, puis je crois que Dieu t'aime vraiment et tout. Et ensuite, ensuite tu vois qu'il se passe rien sur le coup, t'es là à te dire, mais Seigneur, mais pourquoi ça marche pas? En fait, le truc, c'est que des fois, la personne va pas forcément être guérie tout de suite, ou des fois, elle va simplement être touchée par l'attention que vous lui avez portée. Dieu agit en fait de tellement de manières différentes que souvent on a l'impression que c'est un échec, alors qu'en fait, Dieu agit tout simplement autrement. Et comme ça a été dit avant, il n'y a aucune maladie qui n'est pas guérissable. Donc voilà, je veux dire, il ne faut pas se décourager. Si vous avez l'impression qu'il y a un échec et tout au niveau de la prière, surtout ne vous découragez pas, parce que, ben, je me répète encore, c'est vraiment la seule stratégie d'ennemi, c'est de vous rendre incrédule, de vous décourager. Voilà. Et c'est pas parce qu'on comprend pas tout sur le coup que faut laisser tomber. Voilà.
Merci. Marguerite, je veux juste rajouter, il y a quelque chose qui est vraiment très très important pour continuer dans ce qu'a dit Benjamin, c'est que pour marcher dans l'encouragement, et si vous voulez commencer à prier pour les malades et tenir longtemps, c'est important de poser vos yeux sur ce que Jésus a fait, sur ce que Jésus est en train de faire, vraiment de regarder les témoignages. Posez vos yeux sur les témoignages de ce que Jésus a fait, sur ce qu'il fait sur la terre actuellement, et tout ce que vous ne voyez pas, ou tout le reste, c'est pas à vous de le porter, vous le prenez et vous le déposez aux pieds de Jésus. On ne peut pas marcher dans l'encouragement et dans la foi si on... Il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses pour lesquelles on a prié, des personnes qui sont parties. Si on reste avec ça, on ne peut pas marcher en avant dans la guérison. On doit avoir vraiment le réflexe, je dépose à la croix. Je donne à Jésus, c'est son fardeau. Et moi, je regarde ce qu'il a fait et je regarde ce qu'il est en train de faire. Et je continue. Je me relève et je continue jusqu'à ce que je voie la percée que je veux voir. Ok ? Ça, c'est vraiment important.
Par rapport à la guerre, à la bataille, c'est juste une expérience que je voudrais partager. Vous savez, quand on apprend de telles choses, moi j'aime bien voir si ça marche ou pas. Et ben oui. Et tout de suite, après le premier cours, on nous a bien inculqué, vous êtes trop gentil avec le squatteur, voilà, il ne se rend pas compte que vous savez que l'autorité vous appartient. Enfin bref, moi je rends souvent visite à des malades, dont régulièrement dans un centre pour personnes atteintes de démence, où je visite pendant un an une personne vraiment proche. Et puis voilà, et chaque fois que j'y allais, soit seule ou avec Heinz, et bien je rentrais flagada. J'étais tellement triste, j'ai dit c'est pas possible que ça existe, et il doit y avoir, enfin j'étais attristée. Et donc après la journée, on nous a dit, quand vous allez visiter un malade, vous allez avec l'équipement, l'armure d'un guerrier. Vous allez à la bataille. Et c'est ce que j'ai fait le mardi de la semaine d'avant. Et je me trouvais devant la porte vitrée, là, avec coach. J'ai dit, Seigneur, tu me mets l'armure. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Je vais faire ma visite habituelle. Mais s'il te plaît, montre-moi ce que c'est d'être une guerrière. Et je suis rentrée. J'ai fait comme d'habitude. J'ai pu prier avec la personne. Elle est calme, tout s'est bien passé. J'ai dit, ben, c'est comme d'habitude. Et en voulant partir, il y a une autre petite mamie toute mignonne que je n'avais jamais eu l'occasion de contacter. Elle vient vers moi et elle me regarde avec de grands yeux. Et puis je prends ses mains dans mes mains et je lui dis, vous savez, madame, Dieu vous aime. Il vous aime tellement. Alors elle dit, mais c'est qui ? J'ai dit, Dieu, celui qui veut que vous viviez. Il ne vous oublie pas, il sait que vous êtes là. Et intérieurement, j'ai commencé à prier. J'ai une rage a monté dans mon cœur et j'ai prié pour cette femme. Et j'ai dit, madame, la prochaine fois, la semaine prochaine, nous nous reverrons. Et pendant que je prie avec elle, la personne que je vois régulièrement et qui est gentille, avec qui je peux prier, elle élève sa voix, ce qu'elle a fait rarement. Elle dit, arrête tout de suite, va-t'en. Je ne veux pas que tu fasses ça. J'ai dit, merci Seigneur, j'ai compris. Tu es en train d'aligner les choses. Tu me montres, voilà, il y a alignement. Et en fait, ça a changé mon regard sur la personne pour qui je prie régulièrement et le regard sur les autres personnes qui restent là. Simplement un changement de mentalité. Je ne vais pas que par amour, c'est vrai, tellement d'amour, et puis après vous rentrez, vous n'avez plus rien, vous n'avez même plus d'amour pour la maison et tout ça, tellement vous êtes vidé. Et on oublie qu'on va à la guerre et on rentre victorieux. Amen. Et voilà.
Merci. Suzanne ? On applaudit et on encourage.
Voilà. Moi, je voudrais d'abord adresser une prière à mon Père Céleste. C'est pour un sujet, je peux dire que ce n'est pas un autre sujet, ça concerne la maladie aussi, les maladies psychiques, oui, si on veut. Lundi dernier, j'ai dû passer une opération avec une anesthésie générale. Et avant de rentrer en salle d'op, il y a une angoisse terrible. J'étais prise par une angoisse terrible. Et puis le Seigneur m'a donné Philippiens 4, verset 5, il me semblait. C'est verset 5, non, 6 à 7. Donc où il nous est dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications. » Avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Et j'ai répété ça, répété, répété. Je peux vous assurer que je suis rentrée en salle d'op, j'étais sereine et vraiment remplie de sa paix, et je dirais même en joie. Alors, c'est incroyable les transformations que le Seigneur peut opérer dans nos cœurs. Quand nous nous fixons, quand nous confessons sa parole. Alors, donc, pour... oui, le fait de prier pour les malades, c'est un mandat que Dieu nous a donné. Et c'est par amour. C'est par amour. Jésus a guéri par amour les malades. Et cet amour, Jésus nous l'a transféré, il nous l'a donné. Il nous l'a donné pour que nous puissions prier pour les personnes et demander la guérison. Et je crois que c'est important de nous laisser impacter par son amour. Et le mot guérison en grec signifie aussi processus. Dieu peut guérir par étapes. Et rien que pour prier pour les personnes, même si elle ne reçoit pas la guérison tout de suite, elle aura reçu l'amour de Jésus dans son cœur. Et ça, c'est le primordial. En demandant la guérison, nous amenons le royaume de Dieu sur la terre. Et l'enseignement de Jésus, c'était toujours suivi par des actes. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup d'exemples dans la parole. Par exemple, Marc 16, versets 15 à 18, nous dit oui, voilà. Il leur dit: allez dans le monde et prêchez l'évangile à toute création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront les serpents. Et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur sera point, ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Voilà, c'est vraiment la volonté de Jésus La volonté de Dieu, c'est de guérir. On peut voir d'ailleurs dans Actes 5, verset 14 à 16. Tu veux peut-être le projeter ? Actes 5, 14, 16. Donc le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que Pierre passerait, son nombre au moins couvrirait quelques-uns. Alors voyez, même l'ombre de Pierre, une ombre qui n'est rien, et à travers ça, Dieu guérit. À travers l'ombre de Pierre, les malades ont été guéris. Et c'est vrai qu'il n'est pas écrit dans la parole de Dieu que l'ombre de Jésus a guéri. Mais comme disait Jésus, vous ferez ce que j'ai fait, vous le ferez, et des choses bien plus grandes encore. Et il n'y a pas de recette toute faite. Dieu agit d'une façon variée. Si nous sommes remplis de son amour, laissons-nous simplement conduire par le Saint-Esprit. Se laisser simplement impacter, imprégner par l'Esprit de Dieu. Et c'est là que nous pouvons avancer. C'est là que nous avons l'assurance qu'il est là et qu'il intercède et qu'il guérit. Alors, la parole de connaissance, qui fait partie aussi de la guérison, est un des 9 dons de l'Esprit. Donc on le trouve dans 1 Corinthiens 12. C'est une révélation divine concernant la vie d'une personne qu'on n'aurait point pu savoir s'il n'y avait pas eu la révélation du Saint-Esprit. Et la parole de connaissance, elle est disponible pour chaque chrétien. Il suffit de la demander à Dieu. C'est la parole de connaissance qui libère la foi dans notre cœur. On peut la rencontrer de différentes manières. Dieu peut parler à notre cœur. Et cela peut se produire par une voix audible ou alors simplement par un sentiment. Donc nous sommes qui nous imprègne par un sentiment. Et ou simplement par une vision. Le don de la parole de connaissance ouvre la porte pour faire comprendre à la personne que c'est Dieu qui a parlé. Ce qui d'ailleurs facilite le contact avec la personne. Alors, celle-ci, elle peut accepter plus facilement la prière. Et la parole de connaissance, elle ouvre la porte à l'atmosphère spirituelle qui est paisible, l'atmosphère spirituelle de Dieu, bien sûr, qui est paisible et sereine. Je crois que j'ai encore oublié quelque chose concernant la parole de connaissance en ce qui concerne Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous communiquer à travers ce message. Voilà. Merci.
Très bien. Très bien. Okay. Déborah?
pas très long, deux, trois minutes.
Je voulais juste compléter un peu par rapport à ce que Suzanne disait. Il y a une phrase que j'ai trop aimée que Nadine nous a dit, c'est « Marcher dans le succès, avoir du succès, c'est oser ». Et moi, ça a vraiment fait écho dans mon cœur, cette phrase, parce que souvent, on essaye quelque chose ou j'essaye quelque chose et quelqu'un d'autre a parlé de l'échec. Et pour moi, c'est un échec, alors que lui, Jésus, ne voit pas ça du tout comme ça. Et c'était important pour moi de savoir en fait ce que c'était vraiment de marcher dans le succès. C'est d'oser déjà. Et du coup, ça nous amène aussi à la notion de courage. C'est quoi vraiment le courage? De oser faire quelque chose, ça nous demande forcément quelque chose à nous. Si on chante, si on danse, si on parle, si on écrit, c'est quelque chose qui sort de nous. Et bah, du coup, ça devient quelque chose de très personnel quand même. Donc on ne sait pas comment la personne en face va le prendre. Et le fait d'oser, j'allais dire, peu importe le résultat, Jésus, lui, ce qu'il voit, c'est le processus. Et il sait ce que nous, on pense. Il est avec nous dans nos pensées. Et quand je repensais aux disciples, les disciples, c'était des hommes, c'était des hommes comme vous, presque comme moi. Et Jésus, il sait, il a été homme, il sait, lui, ce que c'est de marcher, de parcourir les rues, de parcourir les villes, et d'avoir des gens qui venaient, pour lesquels il priait. Donc je pense que Jésus, il sait exactement ce que nous, on pense, et les difficultés qu'on a dans nos cœurs et dans nos pensées. Et ce que je pense, c'est que quand on est confronté à la maladie et à quand on veut prier pour quelqu'un, honnêtement, pour moi, ça ébranle ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est un bon test. Je pense que c'est un bon test de savoir qui on est vraiment, de savoir ce qu'on croit. Est-ce qu'on croit aux paroles qu'on prononce? Est-ce qu'on croit que la parole a une puissance? Et ouais, c'est un bon test de savoir où on en est. Et c'est pas forcément toujours évident. Je peux être très facilement découragée quand pour moi quelque chose, j'ai l'impression que c'est un échec. Mais en fait, je sais que Jésus, lui, il aime prendre le temps de m'enseigner, en fait, comme ce qu'on a fait pendant ces trois samedis. Prendre le temps de m'enseigner et regarde comme moi je regarde, regarde là où moi je regarde. Parfois, on est quelqu'un racontait qu'une fois, je crois que c'était Elisabeth, elle a prié pour quelqu'un. Et elle a prié pour une chose très précise, mais en fait, le Saint-Esprit a travaillé sur une autre chose. Donc des fois, on ne sait pas vraiment où on va. On se lance, mais au final, on ne sait pas trop où on va. Le Saint-Esprit, lui, essaie, et ça, je trouve que c'est très rassurant. Et quand j'y pense, je me dis qu'au final, on n'a pas grand-chose à perdre, si ce n'est un peu d'orgueil. Bon, c'est plutôt pas mal. Enfin, moi, ça me plaît. Ouais, en fait, à part ça, je ne vois pas ce qu'on a à perdre d'essayer et d'oser, en fait, de prendre un risque. Et Pascal nous parlait du courage l'autre jour, et elle disait que le courage, c'est pas ne pas avoir peur, c'est pas moi j'y vais, de toute manière j'ai pas peur. Non, pour le courage, en fait, c'est de reconnaître qu'on a peur. Et c'est vrai que pour moi, c'est déjà courageux, le fait que waouh, en fait, je sais que j'ai peur, je le reconnais, Saint-Esprit, j'ai vraiment besoin de toi, c'est toi qui fais, moi je peux pas faire, c'est toi qui as la puissance. Moi je suis juste, voilà, les paroles, mais ou les mains, peu importe, les pieds. Et j'ai beaucoup aimé cette notion de courage, où finalement, c'est pas ne pas avoir peur, mais c'est reconnaître sa peur et foncer quand même, même si on a la trouille. Donc voilà, je fais Checo.
Wow. En fait, ce qu'ils ont fait ce matin, c'est une manifestation de marcher dans ce courage et dans le fait d'oser et de faire des choses nouvelles. Et c'est super. Il y a Bill Johnson qui disait, il y a quelqu'un qui disait, si je prie qu'il ne se passe rien, Bill Johnson a dit, si vous priez qu'il ne se passe rien, au pire, il se passe rien. Ça ne fait pas de mal à la personne. OK ? Vous ne la tuez pas. Au mieux, il y a un miracle. Moi, même si on n'est jamais sûr, c'est toujours par la foi, on va prier par la foi, on croit à Jésus, il veut guérir tous les malades. Si quelqu'un n'est pas guéri ou je ne vois pas ce que je veux voir, au pire, je ne l'ai pas tué, elle est bénie, comme on disait, il y a un déversement de l'amour de Dieu, il y a un attouchement qui est fait, et c'est un processus des fois, mais au mieux, il y a un miracle. Okay ? Donc est-ce qu'on va rester paralysé de peur qu'on ne voie pas, ou est-ce qu'on va dire j'y vais et... Il y a 50% qui a un miracle, Il y a 50 qui n'en est pas, mais il y a 50 qui en est un. Donc moi, je veux mettre les 50 et dire, c'est le jour du miracle, je vais voir un miracle. Donc au pire, on ne voit rien et ça ne change rien. Au pire, ça emmène un miracle dans la vie d'une personne. Amen.